Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur Radio France Internationale et France 24. Ouverture de la conférence sur le climat, la COP26, le 31 octobre à Glasgow, en Écosse. L'Union européenne veut assumer un leadership en matière de réduction des CO2. Et pour commenter les ambitions européennes sur tous les chapitres importants pour son avenir, nous recevons aujourd'hui un grand Européen, très transnational d'ailleurs. Il est aujourd'hui en duplex de son lieu de résidence Francfort-sur-Main, qui est aussi d'ailleurs au passage le siège de la Banque Centrale Européenne. Daniel Cohn-Bendit, bonjour.
Bonjour.
Pendant toute votre vie, vous n'avez cessé de faire l'aller-retour entre la France, le pays où vous êtes né, et l'Allemagne, le pays que vos parents ont fui dans les années 30 pour échapper au nazisme. En France, vous êtes d'abord Dany le Rouge, l'une des figures de mai 68. Et c'est en Allemagne que vous optez plus tard pour l'écologie de gouvernement. En 1994, vous êtes élu pour la première fois au Parlement européen sur la liste des Verts allemands. Vous serez régulièrement réélu sur une liste d'ailleurs allemande ou française. Et pendant plusieurs années, de longues années, vous êtes coprésident du groupe des Verts européens. Après 4 mandats, vous renoncez à la politique active, mais pas au débat de part et d'autre du Rhin. Vous continuez à intervenir régulièrement, à être réclamé par les médias comme un vieux sage de la vie politique.
Alors, on a envie de vous demander, une Europe mieux disante dans le monde sur l'écologie, c'est évidemment votre créneau depuis toujours. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est une réalité ou un affichage ?
C'est un affichage qui, devient de plus en plus réalité, mais avec des grands problèmes, parce qu'il y a une grande disparité dans, l'avancée sur la transition écologique d'État membre à État membre. Si vous avez des États comme la Pologne, les pays de l'Est, qui sont beaucoup plus réticents à avancer dans une certaine direction, et vous avez d'autres pays comme par exemple des pays nordiques ou l'Allemagne, la France au milieu, qui font des efforts, mais tout cela n'est pas encore suffisant. C'est ça un des problèmes. Alors si l'Europe déjà... c'est pas suffisant. Au niveau de la planète, on est proche de la catastrophe annoncée.
Alors, on reviendra longuement, bien sûr, sur les grands dossiers de cette COP26. On commence d'abord par une autre épine dans le pied de l'Union européenne, avec la Pologne dirigée par un gouvernement ultra-conservateur qui ne reconnaît pas la suprématie du droit européen. Depuis ce mercredi, Varsovie est d'ailleurs condamnée à payer une astreinte de 1 million d'euros par jour pour ne pas avoir respecté l'arrêt de la Cour européenne de justice du Luxembourg. Alors, est-ce que c'est la bonne méthode ?
C'est la seule méthode possible. Qu'est-ce que ça veut dire la BEM ? L'Union européenne, c'est un État de droit. Ce sont donc 27 États qui ont décidé de se rassembler autour, disons, un pilier de droit commun. Et si ce droit n'existe plus, si le droit n'est pas appliqué, n'est pas respecté, ça ne peut pas fonctionner. Donc aujourd'hui, la Pologne est condamnée. Je crois que l'Union européenne doit maintenant... soumettre, donc retirer des fonds, si vous voulez, à la hauteur de la condamnation, des fonds qui devraient être alloués à la Pologne pour justement pousser la Pologne à respecter, cet état de droit européen. D'autant plus que vous avez maintenant dans tous les pays des personnalités politiques, quand ils sont en campagne, qui jouent justement avec le droit européen. On l'a vu en France, avec des propositions complètement abracadabrantes de Michel Barnier ou d'autres, où on veut soustraire au droit européen toute une partie des choses qu'on croit nécessaires pour la souveraineté nationale. Et comme cela, l'Europe ne peut pas fonctionner.
Alors, pourtant, Emmanuel Macron a reçu mercredi le président Duda, le président polonais en poste depuis 2015, qui est un homme clé du Parti conservateur Droit et Justice. Ils sont ressortis avec l'idée de poursuivre un dialogue approfondi avec Varsovie. Ni la judiciarisation du problème, ni d'ailleurs le dialogue auquel a aussi appelé Angela Merkel, n'ont jusqu'à présent payé vis-à-vis de la Pologne, qui n'a pas bougé.
Non, c'est vrai, c'est un des grands problèmes. Je crois que maintenant, il faut couper, si vous voulez, le flux monétaire vers la Pologne. Il faut sanctionner la Pologne, c'est-à-dire que ce n'est qu'avec des sanctions que les Polonais... Parce que les Polonais sont dépendants des subsides européens. Donc, si vous réduisez aussi bien ce qui va à l'agriculture polonaise ou alors aux fonds régionaux de développement de la Pologne, eh bien, vous verrez que la Pologne va réagir.
Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national à la présidentielle française, était en Hongrie cette semaine, reçue presque en chef d'État par le populiste Viktor Orban, qui d'ailleurs avait rencontré auparavant à Budapest Éric Zemmour. Alors, le Premier ministre hongrois, est-ce qu'il est en train de fédérer cette extrême droite européenne? Est-ce que ça devient préoccupant? Et par ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des interférences dans la campagne présidentielle française?
Bah, c'est préoccupant, d'abord parce que si Marine Le Pen ou Éric Zemmour vont voir Orban, c'est qu'ils décident qu'ils sont pour une démocratie illibérale. Donc, ils sont pour une démocratie autoritaire avec telle qu'est la démocratie hongroise aujourd'hui. Et ça, c'est inquiétant pour la France. C'est inquiétant pour la... d'autant plus que c'est aussi... une tentative maintenant de bloquer une nécessaire évolution de l'Union européenne. Donc c'est franche, ça va être un des débats en France, va être justement sur l'avenir de l'Europe. Et là, Zemmour, Marine Le Pen, même combat, c'est en fait un... Et d'ailleurs, il y a des hommes de gauche, enfin soi-disant de gauche, comme Montebourg et peut-être Jean-Luc Mélenchon, qui disent un peu la même chose, c'est-à-dire en fait de... soustraire la France de l'idée d'une souveraineté européenne. Mais il faut bien croire, il faut bien comprendre. La partie va se jouer en Hongrie. Vous avez en 22 des élections en Hongrie où toutes les oppositions, un peu à la manière des comme en Israël, si vous voulez, de droite à gauche, se sont unies contre M. Orban. Et je crois que maintenant, il faut tenir à sanctionner ou la Pologne, parce qu'il y aura des élections, ou, disons, la Hongrie, par exemple, qui est, elle, sanctionnable à cause d'une corruption incroyable. C'est-à-dire que Marine Le Pen et Éric Zemmour soutiennent un président, un ministre, un premier ministre hongrois qui est totalement corrompu. Ceci est prouvé, lui et son entourage. Donc l'idée de Zemmour et l'idée de Marine Le Pen, c'est de faire de la France un pays aussi corrompu qu'est le pouvoir hongrois.
Alors,
donc vous voyez...
Ce qui fédère justement ces populistes à l'est de l'Union, c'est l'opposition à l'accueil des migrants qui continue à déferler en provenance de Biélorussie, avec l'appui d'ailleurs de l'autocrate Loukachenko. Comment les 27 peuvent se sortir de ce piège par le haut?
Écoutez, enfin, regardez, il y a, je ne sais pas, il paraît qu'il y a environ 5-6 000 migrants qui sont arrivés par la Biélorussie, qui arrivent vers la Pologne. 5-6 000, ce n'est vraiment pas un problème. Donc si les États européens, disons sur les 27, s'il y en a une vingtaine qui décident d'accueillir ces migrants qui vivent dans des situations effroyables dans les forêts à la frontière justement de la Pologne et de l'Allemagne, et il commence à faire très froid, qui vivent dans les bois, eh bien si on décide de les accueillir, c'est pas vraiment un gros problème.
Un mot de la politique allemande, les sociaux-démocrates sont en train de former une coalition avec les libéraux et les écologistes. Alors, deux partis qui sont opposés sur l'agenda européen. Les libéraux ne veulent pas entendre parler de l'assouplissement des règles de Maastricht, du pacte de stabilité. Est-ce que cette opposition peut bloquer l'accord de gouvernement ou est-ce qu'on va pas voir une Allemagne qui, à nouveau, va s'engager en faveur de l'orthodoxie budgétaire?
Non, je crois qu'il va y avoir une évolution. Il va y avoir une évolution. Et je crois que les Allemands, les Verts allemands, les sociaux-démocrates et les libéraux ont l'intelligence de la nécessité d'une majorité pour pouvoir gouverner un pays. Et donc, ils se mettront d'accord. Et l'Allemagne ne rejoindra pas le camp des frugaux, comme on les appelle. Et que l'Allemagne va, moi, d'après moi, aussi structurer une nouvelle idée d'un deuxième plan de relance de l'économie européenne parce que, évidemment, après la crise Corona, ce qui a été décidé ne suffira pas dans les années à venir.
Daniel Cohn-Bendit, passons au chapitre de l'écologie et de la COP26. Alors, la lagune de Marménor, située au sud de la péninsule ibérique, est victime d'une catastrophe environnementale. La faute au rejet de l'agriculture intensive. Une commission d'enquête du Parlement européen doit se rendre sur place l'an prochain. Une action trop tardive pour les citoyens qui se mobilisent par eux-mêmes, à l'image du mouvement pour une mer vivante. Reportage tout de suite de Laura Chambaud et Julien Garel.
Dans les années 80, la Marménor était complètement limpide. Mais depuis, cette lagune d'eau salée, la plus grande d'Europe, est polluée massivement. Les quantités d'acide sulfurique y sont colossales, comme le constatent ces militantes.
C'est dangereux. Les taux dépassent les limites fixées par la loi.
10 fois plus que ce qui est permis.
À l'origine de cette contamination, le développement de l'agriculture intensive dans la région et des rejets agricoles. 80% de la faune sous-marine est morte et les algues se multiplient. Pour leur porte-parole Caroline Rivière, aucun échelon politique ne s'est emparé du problème.
Que ce soit le gouvernement central ou l'Union européenne, aucun politique n'a le courage de prendre les mesures nécessaires.
Face à ce sentiment d'abandon, leur collectif pétitionne pour déclencher un mécanisme législatif spécial, comme l'explique Sandra Marco.
On est en train de collecter les signatures nécessaires. Il nous en faut 500 000 pour essayer de donner une personnalité juridique à la Marménor. Si on y parvient, on pourra poursuivre en justice quiconque lui porterait atteinte.
Une commission d'enquête du Parlement européen viendra examiner cette catastrophe environnementale l'an prochain. Les eurodéputés qui en sont à l'origine espèrent que l'institution se mobilisera pour trouver des solutions.
Qu'est-ce que vous pensez, Daniel Cohn-Bendit, de ce reportage et des leçons à tirer ?
Écoutez, c'est exactement le même problème que les algues vertes sur les côtes bretonnes. L'agriculture intensive produit ce genre de catastrophe écologique. Et que c'est vrai que l'investissement des États et de l'Union européenne dans la transformation de l'agriculture est insuffisant, est insuffisante. Mais ça fait partie de tout le problème de la transition écologique. Transformer l'agriculture intensive en agriculture soutenable, eh bien, cela veut dire une transformation en profondeur qui va être difficile. Donc, ça nécessite des investissements incroyables et des soutiens aux agriculteurs pour justement arriver à cette transformation agricole.
Alors, passons à la COP26, c'est à Glasgow que ça se passe, sous la houlette de Boris Johnson. Les experts sont très pessimistes, vu les trop faibles engagements pris par les États membres. Ils pensent qu'on ne parviendra pas à limiter le réchauffement à plus 1,5°C. Vous partagez ce pessimisme ?
Oui, c'est difficile, parce que d'abord, vous avez les Chinois qui ne seront pas là, et la Chine, c'est un tiers du problème. Donc, si vous n'avez pas la Chine, vous avez déjà un deuxième problème. Le deuxième problème, ça va être les États-Unis. Quelles seront les possibilités des États-Unis à produire un plan, vu la difficulté de Biden à faire passer ses lois de transformation au Sénat américain? Et troisièmement, l'Inde qui va venir, n'a pas encore proposé à l'ONU un plan de transition. On va voir ce que propose M. Modi. Mais si vous prenez la Chine, les États-Unis et l'Inde, vous avez 50% de la production de CO2 de la planète. Donc après, le quatrième grand producteur, c'est l'Union européenne. Et là, l'Union européenne a un plan ambitieux, mais la mise en place est difficile parce que justement, par exemple, en ce qui concerne l'énergie, les Polonaises dépendent totalement du charbon et dans d'autres régions aussi. Donc comment l'Europe va arriver à sa transformation, c'est encore un mystère. Donc je comprends qu'on soit pessimiste, mais il faut faire attention. Il y a une complaisance dans le pessimisme, on n'y arrivera pas non plus. Donc il faut bien identifier maintenant, et j'espère que ça, on y arrivera à Glasgow, quels sont les leviers justement pour accélérer les transitions nécessaire.
Alors l'un des grands enjeux sont les objectifs chiffrés pour sortir du charbon, dont votre pays, l'Allemagne et la Pologne d'ailleurs, sont très grandement dépendants. La Pologne se propose de réduire drastiquement ses émissions grâce au nucléaire, avec la bénédiction de la France, l'Allemagne pas. Alors vous vous sentez dans ce dossier plus vert allemand ou français ?
Bah, les verts allemands, de toute façon, et les verts français sont contre le nucléaire. Donc, si je me sens vert, je suis contre le nucléaire. Moi, je crois que maintenant, il faut voir ça d'une manière un peu rationnelle. La France, de toute façon, ne réduira pas très rapidement sa dépendance du nucléaire. Même, le président Macron veut relancer une nouvelle étape du nucléaire avec ses mini-centrales. Ces mini-centrales qui sont un problème. Quel est le problème ? Pour que ça fonctionne économiquement, il va falloir exporter des mini-centrales. Donc à partir du moment où vous exportez des mini-centrales, disons en Arabie Saoudite, en Afrique, je ne sais pas où, eh bien il y a un danger de terrorisme, car une mini-centrale, on peut plus facilement l'attaquer par des groupes terroristes et que ces groupes récupèrent du nucléaire et qu'ils pourraient avoir la possibilité de faire des mini-bombes atomique. Donc, c'est pas sans problème simplement de faire maintenant des mini-centrales qu'on va vendre de par le monde, etc. Deuxièmement, c'est vrai que l'Allemagne a mis trop de temps à sortir de sa dépendance du charbon. Maintenant, le nouveau gouvernement va dire qu'ils veulent sortir d'ici 2030. Donc, ça fait quand même encore presque une dizaine d'années. La Pologne, elle, à deux possibilités, c'est le nucléaire ou la dépendance du gaz. Et là, c'est vrai que cela dépendra de la capacité de l'Union européenne à financer avec les Polonais une transition énergétique ou qui réduise vraiment, mais très rapidement, la dépendance de la Pologne du charbon.
Alors justement, vous évoquez le gaz. Hein. L'Europe, en ce moment, est en pleine crise énergétique et c'est aussi le contexte de cette COP26. Une Europe qui dépend largement du gaz russe et l'Allemagne, notamment l'Allemagne qui a voulu Nord Stream 2. Est-ce que cette dépendance est malsaine ? Est-ce qu'il faut en sortir ?
Elle est très malsaine. Elle est très malsaine et très dangereuse. D'ailleurs, les Verts allemands sont pour qu'on ne mette pas en fonction Nord Stream 2 pour la simple raison que, en fait, aujourd'hui, nous sommes complètement dépendants du chantage de Poutine. Mais malheureusement, il n'y a que les Verts allemands qui défendent cette position. Aussi bien les sociodémocrates que les chrétiens démocrates sont pour, justement, Nord Stream 2. Les libéraux allemands n'ont pas une position très claire là-dessus. On s'est mis dans cette situation de dépendance du gaz russe. La seule solution, c'est la souveraineté énergétique. L'Allemagne mise là pour le développement rapide des énergies renouvelables, que ce soit les éoliennes ou le solaire. Ils veulent que le prochain gouvernement va planifier que 2% du territoire soit réservé où on puisse implanter des énergies renouvelables ou éoliennes ou des panneaux solaires. C'est très, très ambitieux. Et donc, on va voir dans une dizaine d'années si la stratégie française nucléaire plus énergie renouvelable est plus efficace que toute énergie renouvelable des Allemands qui, dans une quinzaine d'années, veulent avoir une souveraineté énergétique complète que par les énergies renouvelables et les réductions de consommation d'énergie.
Merci Daniel Cohn-Bendit d'avoir répondu à notre invitation en duplex depuis Francfort. Merci à vous les auditeurs. Restez sur nos antennes pour le prochain point sur l'actualité. À bientôt.
Carrefour de l'Europe.